L'histoire est comme un clin d'œil, furtif, aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. Mussolini, portrait d'un démagogue, deuxième partie. Mussolini a modernisé énormément de choses en Italie. Le réseau routier, créé la sécurité sociale pour les plus pauvres, créé les premiers congés payés pour les ouvriers. Cela paraît normal pour quelqu'un qui a fait ses premières armes dans les milieux socialistes. Bref, Mussolini aurait fait de bonnes choses pour l'Italie, ce qui explique sans doute qu'encore aujourd'hui, et on le voit avec l'arrivée de Meloni au pouvoir, il y a une certaine nostalgie de cette époque pour beaucoup d'Italiens. Mussolini, c'est aussi un personnage, disons, assez différent de tout ce qu'on peut entendre et attendre d'un personnage comme lui. Un démagogue? Oui. Un dictateur? Oui. Le créateur du fascisme? Oui. Il a usé de tout ce qui était en son pouvoir pour museler la presse, le peuple, la liberté. Il a instauré un régime politique de peur.
Dans la première partie du clin d'œil consacré au dictateur italien, nous avons pu découvrir comment il a façonné son personnage. Ses racines familiales, ses premiers engagements politiques, la création du parti fasciste et l'arrivée sur la pointe des pieds au parlement italien du parti fasciste fin des années 1910, début des années 1920. La route semblait encore longue vers son pouvoir totalitariste. Et c'est sans doute pour ça qu'elle commence par la marche sur Rome en 1922. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Raphaël, c'est donc le 28 octobre 1922 que tout bascule.
Et oui, Mussolini, alors chef des faisceaux, organise la marche sur Rome. Ce n'est pas un événement militaire, mais un rassemblement de centaines de milliers de fascistes qui marchent vers la capitale pour revendiquer le pouvoir. La marche réunit environ 30 000 hommes médiocrement armés, la propagande fasciste en annonce 300 000. Face à cette pression, le roi Victor Emmanuel III hésite et, au lieu de réprimer des manifestants, il choisit de nommer Mussolini Premier ministre. Une décision historique qui ouvre la voie à l'instauration d'une dictature. Le 31 octobre 1922, Benito Mussolini prête serment comme nouveau Premier ministre. Ce jour-là, l'Italie voit l'apparition d'un homme qui ne se contentera pas d'être un simple dirigeant politique, mais un leader charismatique, prêt à imposer sa vision du pays. Il veut redonner à l'Italie sa grandeur, la transformer en une puissance impériale, comme l'étaient les Romains de l'Antiquité. Au début, Mussolini est perçu comme un homme pragmatique et capable de redresser une Italie marquée par les crises économiques, politiques et sociales. Et dans ses premiers discours, il promet de remettre de l'ordre, de faire face à l'inflation et de rétablir la discipline dans la société. Il met en place des réformes pour moderniser l'économie et l'agriculture. Mais derrière ces apparences de progrès, une autre facette du Duce commence à émerger. En effet, Mussolini ne tarde pas à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. Il manipule la presse, limite les libertés individuelles et met en place une politique de terreur avec les squadristes, des groupes paramilitaires fascistes chargés d'intimider les opposants. En 1925, il s'affirme ouvertement comme dictateur et fait adopter les lois qui abolissent la démocratie. L'Italie devient alors officiellement un régime fasciste.
Ouais, on y reviendra tout à l'heure à tout ça. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce qu'est un régime fasciste ?
Eh bien, le fascisme est un système politique autoritaire qui associe populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême. Ce mouvement d'extrême droite révolutionnaire s'oppose frontalement à la démocratie parlementaire et au libéralisme traditionnel et remet en cause l'individualisme codifié par la pensée philosophique des Lumières. En son sens large, le fascisme se définit comme une réaction aux valeurs de l'humanisme démocratique du siècle des Lumières. Il rejette les droits de l'homme, le communisme, l'anarchisme, les libertés individuelles et le libéralisme politique. Les origines du fascisme font l'objet d'un débat parfois âpre parmi les historiens. Il nous faudrait une autre émission pour en parler plus en détail.
Effectivement. Même si forcément le fascisme sera en toile de fond de ce clin d'œil, revenons à Mussolini. Comment un homme avec un discours de révolte et d'unité a-t-il pu devenir une figure aussi autoritaire et controversée ?
Mais Mussolini savait manipuler la foule et sa propagande était omniprésente. Son image, partout dans les rues, ses discours enflammés, son charisme, tout était conçu pour faire de lui une figure presque mythologique. Mais derrière cette façade se cachait un homme obsédé par le pouvoir, prêt à tout pour maintenir sa domination. Lors d'un discours du 2 avril 1924, Mussolini reprend une citation du philosophe Friedrich Nietzsche, « Vivre dangereusement », qu'il propose comme devant être la règle pour le fascisme. Et Mussolini déclare ainsi «
Vivre dangereusement. Je voudrais que ce fût là le mot d'ordre du fascisme italien. Vivre dangereusement. Cela veut dire être prêt à tout, à quelque sacrifice, à quelque danger possible, à quelque action que ce soit quand il s'agit de défendre sa patrie. La vie, telle que le conçoit le fasciste, est grave, austère et religieuse. Elle est vécue tout entière dans un monde porté par les forces responsables et morales de l'esprit. Le fasciste doit mépriser la vie commode. Son credo est l'héroïsme, tandis que celui du bourgeois est l'égoïsme. Le fascisme est enfin une conception religieuse qui considère l'homme dans son rapport sublime avec une loi et une volonté qui dépasse l'individu. Pour le fascisme, le monde n'est pas ce monde matériel qui apparaît à la surface, où l'homme est un individu isolé de tout autre, existant en soi et gouverné par une loi qui mène à ne vivre qu'une vie de plaisirs égoïstes et momentanés. Le fascisme est né d'une réaction contre le siècle présent et contre le matérialisme dégénéré et agnostique. Cette citation, je l'ai lue sur une musique jouée par les jeunesses fascistes italiennes, le Balilla Band. Raphaël, les attentats ratés contre Mussolini vont, comme pas mal de dictatures, jouer un rôle important pour le Duce.
Oui, les lois qui vont changer la nature du régime et instaurer la dictature. Soigneusement préparées à l'avance, sont présentées opportunément après divers attentats manqués contre Mussolini. L'attentat préparé par le député socialiste Tito Zaniboni, avec des représentants de la franc-maçonnerie, est déjoué grâce à un indicateur parmi les conjurés. Entraîne la loi du 24 décembre 1925 qui confère à Mussolini la totalité du pouvoir exécutif et la possibilité de faire des lois sans en référer au Parlement, devenue une simple chambre d'enregistrement. Mussolini lui-même, anti-monarchiste, n'ose pas supprimer la royauté, ne jugeant pas l'opinion prête, et épargne le roi qui demeure le premier personnage de l'État et peut en principe le révoquer et désigner son successeur. Ainsi, à la différence de Hitler ou de Staline, Mussolini ne disposera jamais du pouvoir absolu officiellement. Dès l'arrivée de Mussolini au pouvoir, il a compris que s'il voulait contrôler la population, celle-ci ne devait pas avoir accès à d'autres points de vue que les siens. Il a donc éradiqué tous les partis et les journaux d'opposition, ou les a forcés à s'aligner avec ses convictions à lui et celles de son régime. De plus, les films et les livres venant d'autres pays étaient interdits. Mussolini a mis en place un ministère responsable de la diffusion d'informations, que ce soit par la presse, le cinéma ou l'art en général.
Raphaël, et si on se penchait maintenant sur l'internationalisation de son régime ?
Alors, dès 1929, Mussolini signe les accords du Latran avec le Vatican, établissant une relation étroite avec l'Église catholique. Il devient ainsi non seulement un leader politique, mais aussi une figure de proue pour une Italie unifiée sous une seule idéologie. À l'étranger, et plus particulièrement dans les démocraties occidentales, son image est positive chez de nombreux dirigeants politiques et dans de larges secteurs de l'opinion publique qui considèrent qu'il a rétabli la paix sociale, fait la paix avec l'Église et qu'il est le plus sûr rempart contre la menace communiste. Aux États-Unis, où vivent des millions d'Italo-Américains et où Mussolini publie des dizaines d'articles dans les journaux, Franklin Roosevelt lui prodigue des commentaires flatteurs en le considérant comme son seul allié potentiel dans son effort pour sauvegarder la paix mondiale. En 1931, Gandhi, en visite à Rome, tient des propos très louangeurs à l'égard du Duce et de son régime. L'arrivée d'Hitler au pouvoir, qui a souvent proclamé son admiration pour le Duce, modifie le rapport de force en mettant fin à l'hégémonie franco-britannique et donne à Mussolini une position d'arbitre. Mussolini propose un projet de pacte à quatre qui n'aboutit pas. Une première rencontre avec Hitler en juin à Stra et à Venise, au sujet de l'Autriche menacée par les nazis, tourne au dialogue de sourds. Mussolini, mis en fureur par une allusion de Hitler à la supériorité des peuples nordiques, se laisse aller auprès de ses proches.
Ce raseur m'a récité Mein Kampf, ce livre indigeste que je ne suis jamais parvenu à lire. Je ne me sens aucunement flatté de savoir que cet aventurier de mauvais goût a copié sa révolution sur la mienne. Les Allemands finiront par ruiner notre idée. Cet Hitler est un être féroce et cruel qui fait penser à Attila. Les Allemands resteront les barbares de Tacite et de la Réforme, les éternels ennemis de Rome.
Mais évidemment, l'histoire nous démontrera le contraire et nous y reviendrons. Pour l'heure, la quête de grandeur impériale de Mussolini le conduit à des aventures militaires catastrophiques. En 1935, l'Italie envahit l'Éthiopie. Ce geste d'agression empire la situation internationale et isole l'Italie sur la scène mondiale. D'un autre côté, dès le début de la guerre civile espagnole, le 18 juin 1936, Franco se tourne vers Mussolini et Hitler pour obtenir des armes. Après quelques hésitations, le Duce s'engage en novembre 1936 dans une aide massive de matériel, de guerre et en hommes, officiellement pour barrer la route aux communistes espagnols soutenus par Moscou. Il ne va en tirer aucun avantage, ni stratégique, ni d'autre nature de cette guerre, moins populaire en Italie que la guerre d'Éthiopie et beaucoup plus difficile. Dès le mois de mars 1937, il essuie un échec cuisant à Guadalajara, à 50 km de Madrid, où 35 000 Italiens et 15 000 Espagnols nationalistes sont défaits par l'armée républicaine et les brigades internationales. Néanmoins, pour Hitler, la guerre d'Espagne constitue un bon moyen de se rapprocher de Mussolini, tout en détournant les ambitions du Duce vers la Méditerranée au moment où il envisage un coup de force contre l'Autriche. Hitler ne se fait pas d'illusions sur les moyens réels de l'armée italienne, mais il préfère avoir l'Italie avec lui que contre lui. Il sait toucher la vanité du Duce en l'invitant en Allemagne du 23 au 29 septembre 1937 et en le comblant d'honneur. 3 millions d'Allemands sur le parcours du cortège officiel, gigantesque parade militaire, voyage en chemin de fer de Munich à Berlin, et les deux trains des chefs d'État roulant côte à côte à la même vitesse, symbolisant, je cite, le parallélisme des deux révolutions. Des foules apparemment enthousiastes rassemblées dans les gares traversées pour acclamer les deux dictateurs.
C'est donc en flattant Mussolini qu'Hitler a réussi à faire alliance avec l'Italie, qui va entraîner cette dernière dans une spirale de violence et de conflits qui culminera en 1940 avec l'entrée en guerre de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale.
Et oui, Mussolini donc a vu l'Italie transformée sous son regard, passant de la démocratie à la dictature, de la prospérité économique à l'implication dans un conflit mondial. Mais comme l'histoire nous le rappelle, tous les empires ne sont pas éternels.
Nouvelle rencontre historique. Le Führer accueille le Duce à l'arrivée de son train spécial. Monsieur von Ribbentrop et le maréchal Keitel assistent à ces entretiens qui durèrent 4 journées et durant lesquelles les deux hommes d'État ont réaffirmé leur volonté de mener la guerre en engageant toutes leurs forces jusqu'à la victoire définitive.
Dans les dernières années de la guerre, Mussolini perd peu à peu son emprise sur le pays. En 1943, après plusieurs défaites militaires, il est déposé et arrêté par le roi d'Italie. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. Libéré par les nazis, il tente de reconstruire son régime dans le nord de l'Italie. Mais en avril 1945, la fin de son règne est tragique. Capturé par des partisans italiens, il est exécuté avec sa maîtresse.
Au petit matin du 29 avril 1945, les corps de Benito Mussolini et de sa maîtresse Clara Petacci sont exhibés sur la Piazza Le Loreto, à Milan, aux côtés d'autres dignitaires du régime fasciste italien. Aussitôt, une foule innombrable se presse sur la place pour piétiner et insulter leurs dépouilles. Vers 11h, les deux corps, atrocement abîmés, sont pendus par les pieds. Une mise en scène macabre d'une violence inouïe qui marque l'épilogue de la première dictature fasciste de l'histoire.
Son corps est livré en pâture à une foule avide de vengeance après 20 ans de dictature et de privation. Une violence aveugle s'abat sur lui. Le corps puissant et triomphant du chef, adoré de son vivant, subit les pires outrages. Benito Mussolini, celui qui s'était autoproclamé le Duce, l'homme qui voulait refaire de l'Italie une grande nation impériale, est aujourd'hui un symbole du pouvoir corrompu, de l'ambition démesurée et du danger des régimes autoritaires. Une époque où l'Italie, tout comme l'Europe, a vu son destin bouleversé par un homme déterminé à transformer son pays, mais à quel prix ? Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas, 107 FM. Raphaël, pourtant, l'histoire déjà scabreuse ne s'arrête pas là.
Et non, même mort, même supplicié, le Duce reste un personnage extrêmement encombrant dans une Italie qui, au lendemain de la guerre, cherche à tourner la page du fascisme. On cherche d'abord à s'en débarrasser en l'enterrant à la hâte et anonymement. Mais la dépouille devient l'objet d'un bras de fer entre l'État italien, les forces fascistes, qui relèvent très vite la tête, et l'Église. Déterré, volé, baladé dans toute la Lombardie, caché dans les couvents avec la complicité d'ecclésiastiques, puis monnaie d'échange politique, durant plus de 12 ans, les restes mortels de Mussolini vont faire l'objet d'aventures rocambolesques, qui illustrent surtout les difficultés de la toute jeune République italienne à sortir du fascisme, à écrire un mythe fondateur commun et à vivre avec ses fantômes. Plus troublant encore, après Dapio, le village natal de Mussolini, tout porte encore son empreinte. On y vend des statuettes, des tasses ou encore des vêtements à l'effigie du Duce. C'est là-bas que se trouve le tombeau du père du fascisme. Chaque année, des nostalgiques se donnent rendez-vous pour honorer sa mémoire.
Oui, bien sûr, et c'est une aubaine pour les magasins de souvenirs. Super ! Pour finir, Raphaël, au-delà de l'élection de Trump aux États-Unis aujourd'hui, restons en Europe. Il y a quelques semaines, l'extrême droite européenne s'est réunie en Espagne. Ce n'est pas sans rappeler la réunion entre Mussolini, Hitler et Franco, dont on a parlé tout à l'heure. Bon, l'heure est grave et les valeurs de cette droite dure sont proches de celles de ces trois dictatures et donc de Mussolini.
Malheureusement, oui. Le groupe Patriote pour l'Europe se dit fondé sur la souveraineté nationale, les valeurs traditionnelles et la défense de la liberté d'expression.
Demandons-nous laquelle, hein.
Oui, et de la sécurité aussi. Il est composé entre autres du Front National de Marine Le Pen, de Fidesz de Viktor Orban, de la Lega de Matteo Salvini, de Geert Wilders aux Pays-Bas et d'Andrej Babiš, République Tchèque. Au Parlement européen, les Patriotes pour l'Europe comptent 89 eurodéputés et constituent le troisième groupe le plus important après le Parti populaire européen, le PPE, et les socialistes et démocrates, le SD. Il est évident que l'élection de Trump leur donne des ailes, et c'est ici que l'histoire peut et doit nous rappeler la dangerosité que représentent ces partis au pouvoir. Les discours que l'on entendait encore il y a peu de temps, notamment en Allemagne, sur le fait que c'était impossible que cela revienne, sont désormais désuets. Il n'y a qu'à voir le score de l'AFD, le parti d'extrême droite allemande. En Italie, l'extrême droite est à la tête du gouvernement depuis octobre 2022. Grande gagnante des élections générales, Giorgia Meloni, chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, est ainsi devenue présidente du Conseil des ministres. Elle est à la tête d'une coalition formée avec la Ligue, un autre parti d'extrême droite, dirigé par Matteo Salvini, et Forza Italia, formation conservatrice, menée par l'ex-premier ministre Silvio Berlusconi. Qui est mort ?
Et il n'est malheureusement pas exclu que l'histoire se répète. C'était clin d'œil à l'histoire consacré au dictateur fasciste Mussolini, tiré entre autres de Portrait d'un démagogue, le livre de Sir Yvonne Kirkpatrick, paru aux éditions Trévise en 1967, du site Encyclopédie Universalis, des archives de l'INA et de Radio France. Clin d'œil à l'histoire, c'est une émission présentée par Raphaël
et Ben, le lundi à 13h une semaine sur deux
et le samedi à 11h une semaine sur deux. Sur Radio Partas.